Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir. Salut à toi, c'est Camille. J'espère que tu vas bien et que tu as obtenu les résultats que tu espérais pour ton second semestre. À présent, installe ton confortable pour le podcast et écoute un métier. En ce mois de juin, je te présente le métier de Rémi Payou, qui est responsable du pôle patrimoine audiovisuel à Cyclique Gestion, qui est basé à Issoudun. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur Payou.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle patrimoine de Cyclique Gestion Centre-Val de Loire. Vous participez à l'audiovisuel.
Oui, c'est bien ça.
L'interview sera découpée en deux questions. Une première sera spécifique à Cyclique Gestion et une deuxième sera plutôt relative à votre propre parcours personnel et professionnel. Je débute donc avec une première question. Pouvez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est Cyclique Gestion Centre-Val de Loire ainsi que son rôle ?
Alors, effectivement, je suis responsable du service patrimoine de l'agence Cyclique Centre-Val de Loire. Ce service a plus particulièrement objet la gestion et la valorisation des films amateurs de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire ça passe par tout ce qu'on appelle le chemin du film, la collecte des supports, le stockage de ces supports, la numérisation, la documentation, puis la valorisation, c'est-à-dire la diffusion sous différentes formes et dans différents secteurs. Et quand on parle de films amateurs, on parle de tous ces films qui ne sont pas soumis au dépôt légal, donc tous les films qui sont hors cadre professionnel, qui sont gérés par des structures nationales comme la Bibliothèque nationale de France ou bien encore le CNC, tout simplement, ou bien la Cinémathèque française, et qui n'ont pas vocation à être conservés. Et donc, des structures telles que la nôtre ont fait en sorte que ces objets d'un autre temps soient aujourd'hui conservés. Et ce sont des films qui sont généralement tournés des années 20 jusqu'à nos jours sur des supports pellicules et ou sur des supports magnétiques. Donc on parle des supports substandards en dessous du 35 mm, du 8 mm, du 9,5 mm, du 16 mm ou pour les supports magnétiques de la VHS, de la Betacam, de l'Umatic, tous ces types de supports qui aujourd'hui sont en péril puisqu'ils sont généralement stockés dans les caves ou les greniers de leurs propriétaires. Mais comme nous, on est sur le territoire, l'idée est de regrouper toute cette matière pour en faire une mémoire collective audiovisuelle.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples à nos auditeurs par rapport à des films que vous avez justement projetés en début d'année ou fin d'année 2023 ?
Oui, alors en fait, il faut savoir que la typologie de films que nous conservons, ce sont des films amateurs. Dans les films amateurs, on entend travaille sous différents secteurs. Ça peut être du film de famille, donc des gens qui se sont filmés lors de mariages, lors de communions, lors de fêtes de village. Ça peut être du film d'actualité, lorsqu'un homme ou une femme politique faisait des tours de France, on pense notamment au général de Gaulle, les gens allaient filmer ce genre d'événement. Ça peut être du film militant, lors de mouvements, on pense notamment au mouvement qui a eu lieu à Fontevraud ou bien dans d'autres lieux, en France, on peut penser au Larzac aussi. Les cinéastes amateurs descendent dans la rue pour se filmer. Très récemment, on peut repenser aux Gilets jaunes. Certains amateurs ont aussi filmé avec leur téléphone portable, tout simplement. Et au-delà de tout ce qui est de l'ordre du témoignage, il y a aussi la fiction. Les cinéastes amateurs font des jeux de rôle, en fait, tout simplement, se jouent devant la caméra avec des vrais scénarios. D'ailleurs, beaucoup de cinéastes amateurs ont fondé des ciné-clubs. Ces ciné-clubs font aussi mettre en place certains festivals. Et donc, il y a aussi des concours entre les cinéastes amateurs avec des échanges de techniques. Pour être plus précis, sur l'année 2024, on a lancé une tournée pour fêter les Jeux Olympiques. Et on a un ciné-spectacle qui s'appelle « Il va y avoir du sport ». Et donc, c'était l'idée de mettre en scène tous ces films qui ont été tournés par les cinéastes amateurs des années 20 à nos jours dans un spectacle avec deux commentateurs sportifs et de la musique pour à la fois réutiliser ces images d'archives et pour les transmettre à un nouveau public dans un cadre complètement différent que celui d'une simple archive. Mais là, vous êtes plongé au cœur d'événements sportifs commentés en direct par deux journalistes avec une musique qui est faite en direct aussi par un musicien qui fait de la MAO. Voilà.
Est-ce que certaines de ces projections passent par exemple au studio ou à la Cinémathèque de Tours?
Oui, en fait, l'idée, c'est que nous sommes avant tout un centre d'archives et donc un centre de gestion de ces documents. Et après, nous sommes en partenariat avec différentes salles de la région, dont les studios à Tours et bien évidemment la Cinémathèque de Tours, qui font la Cinémathèque qui fait aussi un travail autour du cinéma de patrimoine. Et donc, nous sommes complémentaires avec son action.
J'ai une question un peu bateau, mais qui est quand même importante de demander. Pourquoi est-il si important de conserver cette mémoire filmique?
En fait, je pense que tout type d'archives collectives mérite d'être sauvegardé, et d'une manière ou d'une autre, ça nous servira un jour. Au regard, par exemple, de ce qui s'est passé très récemment avec la période Covid, on s'est tout de suite rattaché à ce qui s'est passé dans le passé, et donc les images d'archives permettent de, entre autres, comme support, en fait, permet de nous rattacher à un passé, et donc soit de nous réconforter, soit au contraire de nous alerter sur des choses qui se sont déjà passées et de nous donner des pistes de réflexion pour le futur. On a tendance à dire que les images du passé nous aident à appréhender notre présent ou notre futur, et c'est tout à fait ça. Nous, quand on regarde aujourd'hui l'ensemble de nos collections, on se dit, bah oui, c'est un peu le jeu de mots qu'on a entre nous, mais c'est un peu cyclique. Donc en fait, on revient toujours à l'histoire qui s'est déjà déroulée, et ça nous permet de prendre du recul et surtout de. Voilà, de ne pas s'inquiéter ou au contraire d'aller au-delà de ce qui se passe actuellement et d'enrichir aussi nos relations humaines. Et ça, c'est très important, c'est que lorsque l'on restitue des films aujourd'hui, c'est tout un pan de notre histoire qui nous permet de créer du lien entre la génération actuelle et les générations antérieures et d'aller à la discussion. Et l'image d'archive a ce pouvoir de relancer un peu cette Madeleine de Proust, d'avoir cet effet Madeleine de Proust, et donc de créer des moments de communion autour d'un seul et même objet.
J'y pense sur le moment, mais est-ce que vous avez justement des films ou des images d'archives du Covid ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont filés pendant cette période?
Oui, alors il y a des gens qui se sont filmés pendant cette période, et surtout, ce sont des périodes, on a cité la période des gilets jaunes, la période Covid, ce sont des périodes qui sont et qui seront très sensibles à la collecte de films. Nous, actuellement, nous n'avons pas de mission ciblée sur les images numériques qui ont été tournées numériquement natives. Nous collectons uniquement les supports, donc la pellicule ou la vidéo, mais les fichiers numériques, nous n'avons pas de mission particulière sur ce support. Ça arrivera et je pense que ce sera très riche, justement. Et c'est très important déjà d'identifier les grands moments de l'histoire comme on a pu les identifier dans le passé. Par exemple, nous avons des images de la libération de différentes villes, de Tours, la libération à Châteauroux, etc. Toutes ces villes qui ont subi un moment historique. Ben, ce sera la même chose avec la période Covid ou avec la période Gilets jaunes, par exemple.
C'est très intéressant, vraiment. J'ai terminé avec cette partie justement sur cyclique gestion. Nous allons donc passer aux questions relatives à votre propre parcours. Donc, si je reprends bien depuis le début, vous avez passé un master d'histoire, puis un master MEF à l'université de Tours. Le master MEF, est-ce que vous avez fait que la deuxième année ou est-ce que vous avez repris depuis le début les 2 ans d'études?
Alors effectivement, j'ai dû reprendre mes 2 années d'études. Donc moi, je suis issu effectivement d'un master histoire à l'université Bordeaux-Montaigne, et ça m'a amené progressivement à allier mes deux passions qui étaient l'histoire et le cinéma, puisque j'ai pu écrire et réaliser un premier mémoire sur la chute du mur de Berlin à travers les archives filmiques, à travers à la fois les productions télévisuelles, les productions documentaires et une portion très infime sur les films amateurs. Et ce premier travail m'a amené à passer mon concours, mon CAPES. Et par la suite, j'ai voulu me réorienter vers un master MEF à l'université de Tours, plus dans l'encadrement pédagogique, donc pour devenir conseiller principal d'éducation. Et donc, j'ai effectivement fait un second parcours universitaire à Tours-Fondettes.
Pourquoi d'abord ce premier choix de parcours, puis après avoir voulu changer?
Tout simplement parce que j'avais toujours cette envie de transmettre à tout type de génération. Pour moi, l'idée était de pouvoir discuter de sujets et d'en développer, d'en débattre. Et donc, on va dire que l'éducation nationale me permettait cela, d'avoir en face de moi des personnes qui souhaitent réfléchir autour d'un sujet, que ce soit par le biais d'un cours ou par le biais d'une étude de cas, par le biais d'une rédaction, d'un mémoire, d'un sujet, d'une dissertation, etc., etc. Et effectivement, je me suis réorienté progressivement parce que je pense que la partie film a pris beaucoup de place dans ma vie, parce que j'étais un très grand consommateur, et je le suis toujours. D'ailleurs, je dirais pas consommateur, mais un très grand passionné en fait de l'image, et que cette image a pris le dessus, et que je me suis renseigné sur les différents parcours que l'on pouvait y faire. Donc, je me suis réorienté vers la gestion et la valorisation du patrimoine cinématographique.
Comment avez-vous justement réussi à valoriser votre parcours auprès de l'INA pour accéder à la promotion?
Tout simplement parce que je pense que c'est lié à deux choses. À la première, c'était cette envie de transmettre. Donc, effectivement, quand on s'inscrit à l'INA, on passe un concours. Ce concours, il est en différentes phases, comme tout type de concours. Il y a à la fois un dossier, un dépôt de dossier, puis un passage écrit et un passage oral. Le passage du dossier était assez riche puisque j'avais déjà eu différents masters et puis j'avais véritablement cette envie de travailler sur l'archive. Et après, à l'oral, je pense qu'à l'INA, ils souhaitent aussi valoriser tout type de profil. Donc moi, dans ma promotion, j'avais à la fois des collègues qui étaient anciennement étudiants en histoire, anciennement étudiants en cinéma, et il y avait aussi des personnes en reconversion. Et donc c'est aussi cette richesse que souhaite mettre en place, je pense, l'INA. Alors c'était le cas à mon époque, c'est sans doute le cas aujourd'hui. Cette envie d'avoir des promotions avec différents profils, justement, pour qu'ils se rencontrent et puis pour que les différents métiers et les différentes passions se mélangent pour après faire en sorte que on aille vers différents horizons. Moi, tout le monde n'avait pas envie de travailler sur l'image amateur, par exemple, mais d'autres étaient plus tournés vers le cinéma professionnel, d'autres plus vers la télé, d'autres plus vers le cinéma, etc., etc.
Est-ce que vous avez des retours justement d'autres personnes de la formation que vous avez suivie? Quel métier est-ce qu'ils exercent actuellement?
Oui, alors. La formation était plus tournée vers de la documentation sur tout type de support. Et aujourd'hui, j'ai des anciens collègues de la formation qui travaillent dans des grandes entreprises de gestion des valorisations des archives audiovisuelles, comme Iron Mountain. J'ai des collègues qui travaillent pour France Télévisions. J'ai des collègues qui travaillent pour TF1 ou bien encore Métropole Télévision, donc M6. Mais j'ai des collègues aussi qui sont plus allés vers les archives départementales ou bien vers le journalisme aussi, puisque la documentation est un métier à part entière dans le journalisme. Et donc ça permet d'avoir une sorte d'éventail de possibilités après la formation assez large. C'est plus des compétences métiers. On va acquérir des compétences métiers puisque cette formation, ce qui est très riche, c'est que c'était une formation en alternance. Donc on choisissait la formation, mais on choisissait aussi l'entreprise dans laquelle on voulait travailler pendant un an et demi avant d'être dans le monde du travail.
C'était dans quelle entreprise pour vous?
Moi, j'ai travaillé à Métropole Télévision, à M6, justement. Un monde que je connaissais pas du tout. Mais justement, je voulais m'y frotter pour voir si ça avait été une possibilité pour moi et aussi pour me faire une idée, pour ouvrir un réseau. Les études, avant d'être aussi une ouverture d'esprit, parce que je pense que c'est principalement ça, c'est aussi la construction d'un réseau professionnel. Et tout ce que l'on va pouvoir faire de l'ordre théorique et de l'ordre de la pratique va nous servir par la suite. Et donc là, au niveau de la pratique, au niveau des stages et des alternances, c'est très important de garder les contacts. Et moi, encore aujourd'hui, je travaille encore avec Métropole Télévision pour justement mettre en valeur les archives qu'on collecte en région Centre-Val de Loire.
Qu'avez-vous appris justement lors de ces années de formation?
La formation est très, très riche. Alors, si je reviens sur mes études, on va dire plus universitaires, c'est plus de la méthodologie. L'université nous apprend à avoir une certaine forme de méthode, une certaine forme d'autonomie. Et puis, des clés aussi de compréhension du monde. C'est à l'université, c'est je trouve que c'est ça l'idée, c'est d'avoir ce mélange, d'avoir cette formation, on va dire entre guillemets généraliste et parfois très spécifique, bien sûr, mais c'est l'ouverture au monde. Et après, vers la formation, moi, je me suis orienté vers une formation beaucoup plus professionnalisante, d'une part parce que ça complétait ma formation théorique, et d'autre part, c'est la question du réseau. Et donc, la question du réseau était très importante, et l'acquisition entre guillemets, de compétences métiers. À l'INA, j'ai eu la possibilité d'apprendre des méthodes de travail très spécifiques dans la gestion et la valorisation du patrimoine que je n'aurais pas pu avoir par ailleurs. Et là, ça me permettait de compléter ma théorie par de la pratique, par de la manipulation tout simplement, et par la rencontre de professionnels qui œuvraient dans ces mêmes métiers depuis 5, 10, 15, 20 ans, et donc qui avaient aussi un point de vue. Et de confronter ces points de vue sur à la fois nous qui sommes jeunes travailleurs et eux qui sont dans le métier depuis très longtemps. Et donc c'est un peu tout ça qu'on peut acquérir dans ce type de formation comme Alina.
Votre mémoire à l'INA, justement, il s'intitulait Dossier nécrologique, processus transmissible garantissant l'identité documentaire. Pourquoi un tel choix?
C'est assez étrange de travailler sur des nécrologies,
J'ai juste en
effectivement.
pensé, je ne vais pas le dire.
Non, alors tout simplement parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé à M6, j'avais ce passé d'historien, et que ce passé d'historien à la fois me raccrochait, moi, à mes envies, c'est-à-dire de travailler sur des personnes qui avaient marqué l'histoire, et sur une certaine forme de matière que possédait M6, puisque M6 c'est avant tout de l'image d'archive dit de flux, donc ils sauvegardent beaucoup beaucoup de choses, mais dans ce flux, en fait, qu'ils ont pu archiver, il y a des images plus anciennes, et on pense notamment à tous ces artistes qui ont été filmés depuis l'ouverture de la chaîne jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir célébrer ou commémorer des personnes qui avaient été filmés au début de leur carrière parfois, ou à des moments un peu plus compliqués dans leur carrière, et c'était de pouvoir les célébrer et surtout de s'interroger sur la bonne transmission du document entre le centre d'archives dans lequel je travaillais à M6, donc le service archives, et le service des journalistes dans le cadre du montage de reportages. Et donc moi, je me suis véritablement interrogé sur comment on peut transmettre et relater le document de la meilleure façon possible. Parce que parfois, il y a une sorte de non-compréhension entre le documentaliste et le journaliste. Et l'idée était de créer un document qui permettait d'avoir une bonne transmission de ces informations et de faire en sorte que le journaliste ait l'ensemble des informations et que le documentaliste puisse aussi dire, ben voilà, le document a été tourné à telle époque, donc il doit être relaté comme étant tourné à telle époque et non détourné d'une certaine manière.
Maintenant que vous êtes sorti de l'INA et que vous êtes à Civic Gestion, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste concrètement votre métier? Est-ce qu'il y a par exemple une journée type?
Alors moi, je suis responsable du service. Il n'y a pas de journée type puisque je réponds à la fois à des demandes extérieures et à des demandes aussi en interne. Pour vous faire un schéma, nous sommes 5 agents permanents au service, sachant qu'à l'agence cyclique, il y a 46 agents permanents. Et comme on a pu le dire, il y a différents services à l'agence cyclique, service création, service diffusion, service éducation et le service patrimoine en lien avec les images d'archives. Donc moi, je n'ai pas de journée type. Je vais à la fois répondre à des demandes extérieures pour l'utilisation des images d'archives. Je vais en parallèle monter des projets pour mettre en valeur ces images d'archives. Je vais gérer des problématiques à l'échelle du service. Et je vais aussi faire en sorte que le service fonctionne, c'est-à-dire faire du management d'équipe, faire de la gestion de budget, faire aussi faire travailler sur la communication, travailler sur la programmation des années à venir aussi ou des mois à venir, et donc travailler avec les partenaires extérieurs. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type et on est toujours soumis aux aléas un petit peu du quotidien. Et on est toujours surpris par les gens extérieurs, parce que les films amateurs, et dans le cadre de notre métier au sein du service patrimoine, on est beaucoup soumis en fait aux volontés extérieures et aux besoins. Et on essaye d'accompagner au mieux ce besoin et de rendre les images qui ont été filmées le plus fidèlement possible, et surtout pour que tout le monde puisse pouvoir les voir et les diffuser par ailleurs.
Et donc, justement, je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à mener vos décisions, vos réflexions concernant le choix des projets de valorisation? Est-ce que vous avez des affinités, par exemple, avec, je sais pas, par exemple, des périodes, des façons de filmer?
En fait, en termes de valorisation, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais tout est bon à prendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le partenaire a véritablement envie de travailler avec nos images d'archives et a véritablement un projet solide, je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas l'autoriser et ne pas l'accompagner vers son objet de création. Après, effectivement, il y a des périodes, il y a des thématiques qui sont plus à même soit de mettre en valeur les images d'archives, et tout simplement nous de pouvoir y répondre. Par exemple, là nous fêtons, nous célébrons le 80e anniversaire de la libération. Effectivement, les images d'archives qui ont été filmées par les cinéastes amateurs se prêtent véritablement à pouvoir célébrer et accompagner ce genre de choses. La célébration des Jeux Olympiques aussi s'y prêtait tout à fait, puisque nous avons tout un lot d'images d'archives. Après, nous, pour chaque projet, on fait un peu de la dentelle et on propose des films en face qui soient à la fois techniquement viables et qui répondent aux besoins du partenaire, partenaire qui peut être une institution, une collectivité, une association. Voilà, on répond à tout type de demandes en fonction du besoin et après, on s'adapte en fonction aussi de l'ampleur du projet. Nous, notre accompagnement, il peut être technique, humain, financier. Et donc, on se met autour de la table et on met en place un projet et on voit si le projet est viable aussi. Ça, c'est important.
Et est-ce que le public est justement au rendez-vous?
Oui, alors, c'est assez fou de se dire que l'image d'archive réunit autant de personnes. Ça, c'est indéniable. On a tendance à dire que le local parle au local. C'est-à-dire que si demain on fait une projection à Tours avec un programme qui s'appelle Mémoire filmée de Tours et qu'on va diffuser des images des années 20 jusqu'aux années 80 dans la ville de Tours, il y aura forcément du public présent. Et ça, on est le service est ouvert depuis 2006, donc on fête bientôt les 20 ans du service. Et ça, on l'a vu dans différentes communes. À chaque fois, c'est le même résultat. Après, si on va au-delà de l'image d'archives brute, si on fait des propositions autour de la création, autour d'un ciné-concert, d'un ciné-spectacle, c'est un peu plus complexe parce qu'on parle à d'autres publics. Et donc là, tout l'art de la communication est important pour faire en sorte que le public comprenne bien aussi ce que nous souhaitons faire. Pour diversifier aussi les tranches d'âge que nous touchons. L'archive a plutôt tendance à parler aux personnes soit qui sont férues d'histoire locale, soit qui vivent dans le territoire, mais nous, nous souhaitons véritablement toucher tout le monde. Aujourd'hui, on le constate et on est très heureux de ça. On fait différents projets, je vous ai parlé du ciné-spectacle, mais on a un festival qui a près de 20 ans, lui aussi, qui s'appelle Retour vers le futur, qui a lieu à Châteauroux avec la scène nationale Equinox. On a ouvert ce que l'on appelle un kino rétro. Le kino rétro permet à tout type de personnes de faire un montage de 5 minutes grâce à nos images d'archives et d'être diffusées au cinéma Apollo et donc d'avoir une réunion festive autour du cinéma amateur et du cinéma de patrimoine en général grâce aux créations qui peuvent être faites par tout le monde. Et donc tout le monde, c'est une communauté qui se réunit et qui crée à partir des images d'archives.
Qu'il y a une constance au niveau du nombre de personnes qui vient, ou est-ce que cela dépend tout simplement des projets? Je ne parle pas
Ça
de la
dépend.
tranche d'âge, mais du nombre de participants.
Ça dépend du projet. Ça dépend des partenaires. Ça dépend de la programmation qu'il peut y avoir en face de notre programmation. Comme je vous l'ai dit, si nos programmes traitent du local, sont très 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 focalisés sur le local, en général, ça fonctionne très fort. Si les programmations sont plus larges et il y a une, on va dire, il y a une, un autre biais que celui uniquement de la diffusion de l'image d'archive, si c'est accompagné d'un artiste, d'un comédien, d'un auteur, etc. Parfois, ça amène moins de monde parce que c'est plus ciblé. Et donc, l'image d'archive en fait, l'image d'archive a un profil assez libre. Et comme il est assez libre, les gens souhaitent avoir le plus de liberté pour la voir. Et donc, pas forcément être accompagné. L'image d'archive se lit tout simplement telle quelle, sans musique, sans rien. Puisque d'ailleurs, il faut le noter, la plupart de nos films sont muets et sont noirs et blancs, et donc les gens aiment aussi parler lors des projections, s'approprier le contenu et revoir leurs souvenirs aussi et échanger avec leurs enfants, leurs petits-enfants qui sont présents dans la salle. Ça fonctionne très bien, et ça fonctionne moins bien forcément si vous faites dans un cadre de ciné-concert où il faut que ce soit silence dans la salle et donc accompagné plus. C'est un accompagnement différent de l'image d'archive.
Est-ce qu'il y a un projet qui vous a tenu un peu plus à cœur qu'un autre?
Moi, depuis que je suis arrivé en 2018, donc ça va bientôt faire 6 ans, j'ai différents projets effectivement qui ont égrené un petit peu mes années enfin, à la tête du service patrimoine. Le premier projet que j'ai en tête, c'est le projet Marie Dupont. C'était un projet de profil fictif qu'on avait créé sur Facebook. Et ce profil parlait depuis les années 60 et nous racontait des étapes progressives d'une vie d'une femme qui a vécu dans les années 30 jusqu'aux années 80 en région Centre-Val de Loire avec différentes étapes clés. Ce projet a été diffusé sur les réseaux sociaux, il a été diffusé à la télé, il a été diffusé au cinéma et on a fait une petite tournée avec et ça c'était très riche. Après on a aussi fait des projets comme il va y avoir du sport, le ciné-spectacle. Je vous ai parlé du Kino Rétro. Le Kino Rétro, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est la restitution directe à des créateurs, à tous les créateurs, qu'ils soient de la région ou hors région. Et donc, c'est une restitution directe à un public sous forme de création. Et donc, ça, c'est l'appropriation directe de l'histoire de la région. Et donc ça, c'est évidemment très très riche. Après, on a aussi eu des projets, sans parler de projection, mais on a eu des projets, on a organisé des rencontres européennes autour du film amateur dans le cadre du réseau Inédit dans lequel on est intégré, qui gère, qui rassemble toutes les cinémathèques et les centres d'archives qui font les mêmes métiers que nous. Et donc, on a organisé ces rencontres en 2021. De même, en 2021, on a aussi ouvert la porte professionnelle sur le site mémoire.cyclique.fr, qui a été totalement remanié et qui permet aujourd'hui aux professionnels de télécharger des images d'archives pour pouvoir monter leur projet. Donc, c'est tout un tas de projets que l'on a égrenés au fil des années, qui, il me semble, permet aujourd'hui d'avoir l'accessibilité d'images d'archives le plus grand possible, enfin le plus large possible. Et donc on est assez fiers au service de se dire que voilà, on a œuvré à ça et on va essayer de le faire dans les prochaines années aussi et de l'amplifier.
Est-ce que l'État et la région vous suivent assez bien au niveau du financement?
Bah, nous, voilà, si on revient à l'origine de la création de Cyclique, c'est une volonté de la région et de l'État. Aujourd'hui, on est un outil au service de la région et de l'État sous les différentes missions que je vous ai citées tout à l'heure. Et donc nous sommes financés très majoritairement par ces deux acteurs qui nous permettent tous les ans de renouveler notre offre au public. Et oui, il faut être toujours vigilant sur la restitution au public. Il faut toujours être vigilant sur ça. Et le plus important, c'est aujourd'hui d'être dans la collaboration et le partenariat avec ces deux entités qui sont la région et l'État pour faire en sorte que ce service public soit consolidé, qu'il l'a été depuis l'ouverture du service patrimoine en 2006, mais bien avant aussi, et jusqu'à aujourd'hui, on espère dans les années à venir.
Et donc, vous, votre rôle dans tout ça, c'est un peu aussi celui de chef d'équipe, de chef de projet. Comment avez-vous justement appris votre métier? Je devine bien que vous l'avez appris sur le tas, mais est-ce qu'il y a eu des choses un peu plus compliquées à gérer?
Moi, quand je suis arrivé au service, c'est la direction de l'établissement, donc de l'agence cyclique Centre-Val de Loire, qui a entre guillemets fait le pari d'une personne plus jeune à la responsabilité du service. D'ailleurs, je les en remercie. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et effectivement, quand je suis sorti de mon parcours d'étudiant, je n'avais pas forcément toutes les compétences sur la gestion d'équipe, la gestion financière et budgétaire d'un service. Aujourd'hui, moi, c'est voilà, comme vous l'avez dit, un apprentissage au quotidien, c'est un apprentissage au court, moyen et long terme. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis un professionnel entre guillemets plus accompli qu'il y a 6 ans et que le pari est entre guillemets relevé puisque on l'a cité avec les différents projets que je voilà. Et moi, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai fait face à des besoins, j'ai fait face à des attentes. Et qu'on a su les relever en équipe. Moi, j'ai une équipe, on est 5 au service, donc j'ai aussi eu le soutien de cette équipe-là, qui avait des compétences métiers. Je me suis appuyé sur ces compétences métiers pour mettre en place ce qu'on peut appeler l'intelligence collective, tout simplement, et faire en sorte qu'ensemble, on travaille ensemble vers ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire la restitution au public. Donc oui, c'était un apprentissage, mais tout le monde a cette possibilité. Et je pense que à partir du moment où il y a l'envie, il y a cette ouverture. Il peut y avoir cette ouverture d'esprit de certaines entreprises, de certaines sociétés qui font aussi le choix d'avoir des profils entre guillemets différents pour remplir les missions et ils peuvent en être aussi très contents au fil des années, se dire oui, on a fait le bon choix. Et j'espère qu'en tout cas c'est le cas aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, voilà, je suis fier du travail accompli et je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je pense qu'il y a une nouvelle aussi génération qui arrive et qui aura juste besoin de voilà de mettre sa patte aussi dans ce type de métier, dans les métiers archives et bien d'autres aussi.
Quels sont vos prochains projets professionnels? Vous êtes bien à votre place à Cyclique Gestion, ça je le comprends bien, ça se voit même que vous êtes heureux dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez des ambitions au niveau justement de votre emploi, etc., ou même pour tout simplement pour Cyclique?
À l'échelle de l'agence, à l'échelle du service, il y a énormément de projets. On a œuvré, on a travaillé à ce que l'on appelle un projet scientifique et culturel, donc qui amène à se poser les questions sur quelles sont les missions et quelles seront les missions du service patrimoine au sein de l'agence cyclique. Donc, on a déjà identifié énormément de choses à faire et donc potentiellement du travail pour les 10, 15, 20 ans à venir. Tout à l'heure, on a cité un peu les fichiers numériques. Ça, c'est tout un volet hyper riche et hyper intéressant à développer. Mais il y a aussi toute la valorisation, toute la proximité au public, toute la question aussi des évolutions des métiers. Aujourd'hui, on pense à l'intelligence artificielle, on pense à tout ça. Tout ça, je pense, est bien assez dense pour que moi, aujourd'hui, en tant que professionnel, je puisse m'accomplir et je puisse me développer. Après, effectivement, il y a toujours des orientations, des possibilités d'aller voir dans d'autres sociétés, dans d'autres entreprises, d'œuvrer auprès de d'autres acteurs. Moi, je me mets jamais de limites et jamais de barrières. Je pense que c'est chaque métier peut être complémentaire, chaque région aussi peut être peut avoir un apport sur l'accomplissement professionnel d'une personne. Moi, je ne suis pas de la région. Peut-être qu'un jour je quitterai cette région, mais elle m'a beaucoup apporté. Voilà, cette idée je pense qu'aujourd'hui, hein, que ce soit ma génération, aujourd'hui, moi j'ai 34 ans, on n'est pas fixe dans un métier, même si on peut l'être, mais on peut tout à fait aussi bouger, et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça peut être une très bonne chose, si on en a l'envie, les compétences, et puis surtout s'il y a les opportunités en face, il faut potentiellement y aller. Et je le disais tout à l'heure à demi-mot, mais je pense aussi qu'il y a une succession à certains postes, même à tous les postes, à partir du moment où on a donné ce qu'on avait à donner sur le poste sur lequel on est, on peut laisser la main et justement que les personnes par la suite soit continuent, soit modifient et parfois améliorent aussi le secteur dans lequel on travaillait avant. Ça, c'est très, très important, la complémentarité des personnes.
Pour finir cette interview, est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous faire partager?
J'étais en train d'y réfléchir. Je pense tout simplement, tout à l'heure, je vous ai cité les rencontres européennes qu'on a organisées, donc les 31e rencontres européennes de l'association INEDI qui ont eu lieu à Issoudun. Ça a été un moment à la fois très professionnel puisqu'on a accueilli plus de 300 personnes dans le cadre de ces rencontres, avec des structures qui venaient d'Italie, de République tchèque, du Luxembourg, de toute la France. Et donc, tout ça a été porté par l'agence, par le service patrimoine, et pour au final mettre en valeur à la fois nos compétences métiers, la richesse de l'agence Cyclique Centre-Val-de-Loire, sa complémentarité à l'échelle de l'ensemble de ses services. Et on a aussi, le plus important, c'est mis en valeur les films amateurs tournés par ces cinéastes amateurs que nous collectons depuis 2006 et tout le travail donc qui a été fait, toute cette mission qui a été lancée par la région et l'État, ça a été vraiment une grande fierté et puis un fort accomplissement et une forte reconnaissance par les pairs du métier. Et donc oui, ça ne peut être qu'un bon souvenir et je le garderai toujours gravé au fond de ma tête.
J'en ai fini avec cette interview. Monsieur Payou, je vous remercie énormément vraiment pour votre participation. Ce fut un grand plaisir de vous avoir comme invité. J'espère que l'interview va plaire à nos éditeurs et à ceux qui nous écouteront plus tard.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt.